Guillaume.
Oui.
Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on tienne Alex.
Ah bon ?
Écoute, quand il présente Chewbacca hier.
À 17h20, celui qui était trop ému pour venir demain, puisque nous recevons son idole, Salvatore Adamo, alors il est venu aujourd'hui.
Et tu vois, il se projette là.
Ouais, mais je comprends pas.
Et c'est Alex qui est fan de Salvatore Adamo.
Ah bon, d'accord.
À la fin de l'émission, quand j'ai annoncé qu'il était invité d'aujourd'hui.
Merci Olivier Delacroix. On va se retrouver demain avec Salvatore et Adamo. Voici le mot de la fin.
Bien. Ah oui, effectivement, il est à fond là. Ouais.
Donc, on surveille Alex.
Oui, donc on le laisse pas partir dans ses meilleures anecdotes sur Michel Thorn.
Ah, puis qu'il se mette pas à chanter, vous permettez, monsieur, avec son meilleur accent du Borinage en plus.
Du Bori quoi ?
Bah, c'est la région d'où vient Salvatore Adamo.
Hein ?
Bah, tous les Belges, on sait ça, tu sais.
Mais alors, attends, mais toi aussi, t'es fan, alors, du coup?
Ah, attends, et ma mamie, elle me chante toujours, c'est ma vie.
Ah, d'accord.
C'est ma vie.
Oui, d'accord.
Je n'ai pas
non, mais c'est bon. Non, mais attends, en fait, vous êtes tous fans d'Adamo, c'est ça le truc?
Ouais, complètement, ouais.
Attends, ceci dit, hier, j'ai remarqué qu'en culture musicale, t'étais pas top, hein. Notre invité, là, il venait de parler de ses émissions de télé, tu lui as parlé de son disque.
Il y a votre album qui s'appelle Amor, qui est sorti au mois de mars, et découvrez-le, parce que c'est vrai que quand on est, comme vous, journaliste, ou qu'on est à la télévision régulièrement, etc., en France, on est souvent mis dans des cases.
Et alors?
Et tu l'avais pas dit, ça, Christophe Ondelat, quand il était venu, par exemple?
Ah, non, ça, ni pour l'album de clarinette de Christian Morin, d'ailleurs.
Ah, donc Salvatore Adamo, tu vas lui parler de ses chansons ou de son exposition de peinture sur soi?
Bah si Salvatore Adamo il fait de la peinture sur soi, je peux peut-être lui demander de faire de la peinture sur moi.
Putain, il me fatigue, c'est belge.
C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis.
Fatigue, fatigue.
Bonjour la France Inter, c'est ma vie, je t'ai choisi, oh toi auditeur, tu écoutes la start-up du service public et voici la crème de l'information. Gros succès pour la cagnotte des cheminots, les Français qui soutiennent le mouvement alimentent la caisse de grève qui atteint aujourd'hui 674 000 euros. Les cheminots ont créé une association pour répartir l'argent entre les syndicats.
T'es dingo, faut tout claquer. Ça sert à ça le pognon. On va aller se mettre les orteils en éventail au soleil à Saint-Tropez.
La notion de talent est très liée au monde de l'art et qui prend de plus en plus de place aussi le talent dans le monde managerial. Oui, le talent est une notion que tentent de définir les universitaires avec cette question. Quelles conséquences la peut-il avoir sur le travail aujourd'hui?
Hey, t'as raison, quand on n'a pas de talent, faut pas insister. Hein.
Ah, d'accord. Le héros du football italien est parti hier soir sur un carton rouge, le gardien de la Juve Gigi Buffon, qui jouait son dernier match de Ligue des Champions, a pris sa retraite sur une exclusion du terrain. Alors comment ne pas rater sa sortie?
La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant.
Lui, sa sortie, il fait chaque jour semblant de la rater, puisque sa sortie, c'est toujours une chute. Alex Bizot.
Bonjour Charlie de Vanhoenacker. Et aujourd'hui, vous pensez bien que pour l'invité, j'ai sélectionné une belle équipe.
Ah
bah
oui.
À 17h20, celle qui est DJ. Donc, la nuit, elle devient folle. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, une chronique bien gentille.
C'est vrai, vous allez dire du bien à notre invité?
Oui,
bon,
exactement.
Vous ne pouvez rien en dire d'autre de toute façon. À 17h30, l'islamo-gauchiste de cette émission qui, quand on lui demande s'il va faire une bonne chronique, nous répond « Inch'Allah !» Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je me suis rendu ce matin au congrès des maires d'Île-de-France. Et là, vous vous dites « Oulala, on va bien se faire chier ». Mais non, j'ai rencontré des gens venus de communes formidables.
Je suis de la ville de Houille.
Alors, on va pas faire des jeux de mots, peut-être. On va être gêner.
Moyen de rire. Et enfin, à 17h40, combien de fois ne lui ai-je pas dit « Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds ». Ça n'a pas fonctionné. Clara Dupont-Moineau, bonjour.
Bonsoir, bonsoir Alex.
De quoi on va parler?
De l'herbe.
Ah très bien.
Ah oui, c'est dans l'actu.
Ça vous fera du bien.
Complètement.
Une actu-herbe, gros secteur.
Allez, manifestez-vous dans le monde virtuel. Nous sommes sur Twitter, hashtag par Jupiter et sur notre page Facebook. Et je me tourne vers celui qui va enchanter notre open space.
Ah, il y a un suspense.
Bon, sensiblement.
Attendez, parce qu'on ne sait pas encore qui c'est.
On m'avait mis en situation.
Vous remportez à 16 ans le concours Mon Savon, DOP, diffusé sur Radio Luxembourg. Quelques années plus tard, vous devenez le deuxième plus grand vendeur de disques derrière les Beatles. Vous avez chanté Tombe la neige, je sais le dire en japonais, Yuki wa furu anata nakonai. Voilà, je voulais vous impressionner. Les filles du bord de mer, vous permettez monsieur, et dans la partie engagée de votre œuvre, Inch'Allah. Cela vous vaut toujours d'être interdit dans certains pays arabes, d'ailleurs vous êtes, je vous laisse nous le dire. Attention Alex, tenez-vous, vous ne l'avez pas reconnu, je sais.
Je m'y prépare quand même.
Vous êtes, dites-le nous, vous êtes.
Moi, je suis Salvatore, oui, Salvatore Adamo.
Oh
non,
France Inter,
Restez assis.
Charlie, le fan de la cœur, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Allez, on fait tous une ola.
On vous attendait.
Oh là là, je peux
vous
dire.
Parce qu'on en a déjà eu des Belges. Hein. Vous, non.
Il est sicilien aussi.
Oui, c'est vrai.
Salvatore Adamo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous présenter votre 26e album qui est disponible depuis février. Vous êtes en tournée.
Oui, tout augmente, d'accord, mais c'est 25e.
Ah bon?
Ah, c'était celui d'Hervé Villard. Vous écoutez, si vous l'avez ajouté.
Celui en japonais, il compte pas. C'est juste la traduction.
C'était pour voir si vous étiez vigilant. Et cet album s'appelle, je vérifie quand même, oui, Si vous saviez, trois petits points. Mm-hmm. Alex Vizorek.
Bah moi, j'ai envie de vous faire un petit cadeau parce que
un petit cadeau
qu'on va se faire tous les deux sur une radio française de première écoute. Passez ceci.
On a pour une ou on gagne. Sa vie de famille, on n'y peut rien. On n'aime pas toi de ce village. Pour nous, c'est le plus bio des langages. On est pour une sarardeo, on rougigne.
C'est Caillou.
Ben ouais, on peut traduire maintenant cette langue qui ressemble un petit peu au ch'ti parce qu'on n'est pas loin.
Absolument. J'ai enregistré hier, pour ne rien vous cacher, le petit quinquin en ch'ti. Et j'étais étonné par la proximité du patois ch'ti et celui de chez nous, n'est-ce pas?
Exactement, le borinage. Et donc la chanson dit « on est brun ou on ne l'est pas », ça vient de nos parents.
Peut-être ça ne se faisait plus dans votre enfance, mais dans la mienne, on s'appelait encore, entre copains, « Webiloot ».
Alors,
même au borinage.
Moins, mais c'est sûr que c'était juste à côté et...
Juste avant.
Dans le borinage, si vous voulez, tout se fait en fonction de la maison d'Adamo.
Peut-être que pour l'auditeur, il faut expliquer ce que c'est que le borinage.
C'est une région de la Belgique et quand on demande...
Du côté de Mons,
voilà, quand on demande
pas
le
loin
chemin,
de la frontière française.
Les gens disent, tu vois la maison d'Adamo, c'est sur le droite. Et donc voilà, je voulais vous replacer dans cette belgitude-là et dans cette immigration italienne-là. Et 50 ans plus tard, vous avez fait 25 albums. Comment on se renouvelle? Comment vous vous remettez comme ça le dimanche avec votre guitare et vous dites, je vais me réécrire une petite chanson?
Eh bien, c'est pas moi qui le décide. Je n'y peux rien.
C'est madame
qui
vous met des coups de pied aux fesses.
Non, non, mais.
C'est le banquier.
L'idée de la chanson, elle me vient où que je sois.
Parce que des thématiques, vous en avez déjà brassé. Ouais.
Donc, c'est juste une question de curiosité et d'empathie et d'intérêt de la vie, quoi. Ne pas se cacher dans une tour d'ivoire, tout simplement s'intéresser à ce que les autres font. Et ça va mieux depuis que je suis devenu myope et j'ai des lunettes pour voir de loin et je vois mieux les autres maintenant.
C'est vrai. Vous avez jamais été à vous regarder le nombril non plus.
Pas trop.
Et encore moins vis-à-vis, je trouve, de la nouvelle génération parce que là, il y a un duo avec Camille sur cet album. On en parlera avec Mélanie Bauer tout à l'heure. En Belgique, avait cartonné ce duo avec Olivia Ruiz sur Georges Clooney. Vous aimez regarder ce qui se fait. Vous aimez justement échanger avec ces artistes-là qui peuvent vous inspirer aussi autant que vous les avez inspirés sans doute.
C'est en effet, je me sens souvent revivre en entendant des jeunes qui dénotent une certaine filiation avec les maîtres que furent Brel, Brassens, traînaient beaucoup. Et donc, il y a pas tellement longtemps, j'ai fait un album de duo et je voulais savoir à quelle famille musicale je pouvais prétendre appartenir. Et donc, j'avais donné une série de noms. Et ils ont tous répondu favorablement et ça m'a vraiment rassuré, que ce soit les Souchon, Voulzy, Benabar, Thomas Dutronc, Olivia Ruiz, Morane, Juliette, Raphaël, ils étaient tous là, Renan Luce, j'en oublie.
Et vous écoutez FIP aussi, j'ai lu.
Oui, beaucoup, ouais. Oui, beaucoup. J'aime bien la variété du programme, toutes les musiques sont représentées et moi, je capte une musique par sa sincérité, quel que soit son style.
Sur ce dernier album, le mot qui revient souvent quand j'ai lu les critiques, c'est le mot « on découvre espiègle ». On vous découvre espiègle. Nous, on savait un petit peu ça, mais est-ce que vous avez souffert qu'on ne vous voit pas assez cette facette-là?
Mais c'est étrange parce que dans mon répertoire, j'ai quand même des chansons qui la montrent, cette espièglerie.
Vous permettez, monsieur, déjà.
Les filles du bord de mer, j'avais fait le barbu sans barbe. Non, mais même en classe, déjà... J'ai retrouvé un vieux bulletin où, en toute modestie, j'ai 10 partout et j'ai 0 en discipline. Parce que je ne ratais jamais une occasion de faire rigoler un copain, quitte à mettre un peu le professeur en boîte.
Oh, ouais. Super.
Ça m'est arrivé, ça.
Bon, vous êtes bien
tombé. Mettez
alors.
Le bazar. Mettez le bazar, Salvatore Adamo. Le coquinou Adamo, donc Espiègle, oui. Est avec nous jusqu'à 18h pour notre plus grand plaisir. Votre album s'appelle Si vous saviez. Mélanie Bauer va y revenir tout à l'heure et on écoutera un extrait. Et puis vous êtes en tournée, même jusqu'au Chili, figurez-vous. Je vous raconte ça tout à l'heure.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right.
Hey Joe par Willy Deville. En français, on dirait Willy Deville, bien sûr. Vous êtes sur France Inter et quelle chance. Aujourd'hui, on vous a amené Salvatore Adamo qui nous présente son dernier album, Si vous saviez, et qui va en parler tout à l'heure, Alex.
Eh bien, on a désigné Mélanie Bauer, figurez-vous. Guillaume Meurice, on l'a désigné pour ennuyer les gens.
Oui, j'aime bien faire ça.
Voilà, ouais. Ça revient souvent d'ailleurs. Ouais, et Clara Dupont-Monod, évidemment, pour élever le niveau de cette émission, bien ainsi sûr. Que son esthétisme.
Il y en a besoin.
Salvatore, c'est le moment des informations. Attention, chut, c'est parti.
Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole.
Le journal de presque 17h17.
Soit le gars est un génie ou alors il est complètement con, je sais pas quoi dire.
Et on commence par les titres.
Jean-Pierre Pernaut a interviewé Emmanuel Macron dans une salle de classe cet après-midi à 13h.
Une salle de classe, c'est comme interviewer DSK dans la chambre d'hôtel du Sofitel.
Procès Tarnac, Julien Coupa oui. Et Ildune Lévy ont été relaxés dans l'affaire de la dégradation d'une ligne SNCF.
Oui, on sent l'intention du tribunal correctionnel de ne pas créer de jurisprudence. Si on commence à condamner ceux qui dégradent les lignes SNCF, Elisabeth Borne risque la perpétuité.
Il y aura des brèves.
Et oui, et une brève sonore qui nous vient de Belgique.
C'est donc dans une école primaire que Jean-Pierre Pernaut a interviewé à 13h Emmanuel Macron.
Oui, alors parce que si on voulait que l'image fasse sens, il aurait dû être interviewé à la Fistinière par Mesmer, hein, l'homme qui aime autant endormir les gens que lui.
Emmanuel Macron, lui, avait plutôt décidé de s'adresser au senior.
Voilà, un exercice dans lequel il excelle, quand il parle avec Gérard Collomb notamment. Notre phrase préférée, attention Salvatore, vous qui êtes un poète, accrochez-vous.
Pour être juste, faut empêcher ceux qui sont en haut de la cordée d'avancer trop vite. Bah, si on est tous au même niveau, la cordée tombe. Et il y en a d'autres qui pensent que pour que la cordée tienne, il suffit qu'il y ait le premier galop. Non. La cordée, elle n'avance qu'à la vitesse de la corde.
Voilà, vous avez donc 2 heures. Et à force de parler corde, il va finir par donner des idées aux Français, celui-là.
Alain Juppé, oui, de son côté, serait favorable à un nouveau mouvement de droite et du centre.
Oui, après le succès de En Marche, Alain Juppé va lancer En Déambulateur.
Société, selon une enquête de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, près de la moitié des Franciliens déclarent avoir été agressés, volés ou cambriolés.
Voilà, l'autre moitié se déclare extrêmement satisfaite de leur nouveau sac à main, leur nouvelle voiture d'occasion et leur nouvel écran plat.
Média.
Oui, aujourd'hui, c'est le dernier jour des audiences des candidats à la présidence de Radio France devant le CSA.
Et à la fin, cul un mouton.
Et c'est gros suspense pour nous. Santé.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré au sujet de l'homéopathie que c'était probablement un effet placebo.
Voilà, un peu comme quand Macron se disait de gauche.
La même ministre de la Santé confirme que les pictogrammes femmes enceintes seront plus grands sur les bouteilles de vin.
Oui, c'est le même concept que les photos de poumons sur les paquets de cigarettes. Il faut avertir des risques que vous encourez en cas de consommation excessive. Donc, trop boire peut vous mettre enceinte. Faites très attention à ça.
Vin toujours ?
Pardon. Je laisse 2 secondes. Des œnologues ont imaginé le millésime 2050. C'est-à-dire qu'ils ont en effet anticipé le réchauffement climatique sur le vin de Bordeaux. Et
le résultat est sans appel. Ça n'a rien à voir avec le Bordeaux qu'on connaît aujourd'hui.
Voilà, en apprenant ça, Jean-Vincent Placé a déclaré « Je réintègre Europe Écologie Les Verts et je fais du réchauffement climatique mon nouveau cheval de bataille. »
People toujours.
Oui.
Céline Dion annule ses concerts car elle souffre d'autophonie, c'est-à-dire qu'elle entend sa propre voix de façon anormalement forte.
Et si ça peut la rassurer, nous aussi. On entend sa propre voix de façon anormalement forte.
Petite brève.
Allez, c'est le cadeau. C'est le cadeau. J'ai regardé le JT belge pour être mis au courant de quelque chose qui, comment dire, met en scène nos deux pays. En France, pour Pâques, c'est la chasse aux œufs. Mm-hmm. Mais chez nous,
on en vient à la polémique du jour et elle est quelque peu surréaliste. La traditionnelle chasse aux sextoys de Wépion se tient aujourd'hui.
Voilà. Et en fait, oui. Et le journal Le Parisien, peu scrupuleux, avait mentionné que cette chasse aux sextoys tombait une semaine plus tôt, donc le même jour que le dimanche de Pâques en France. Et ça, certains chrétiens ont trouvé que c'était pas supportable, comme le raconte le reportage de la TBF.
Certains parlent de manque de respect pour les croyants, d'autres comparent les participants à des marques du trou en puissance. Des réactions attribuée à des internautes catholiques, incompréhensible pour les chasseuses de sextoys.
Mais c'est pas leurs affaires en fait. Les Belges sont réputés pour être des bons vivants et pour aimer faire la fête et on n'a pas de pudeur et on s'en fout en fait. Et si les Français ils ont envie de s'insurger, qu'ils s'insurgent, c'est leur problème après tout.
Bam. Allez. Et figurez-vous que tout est rentré dans l'ordre et encore mieux, écoutez la fin.
Ironie de l'histoire, cette vidéo buzz a attiré des Françaises venues elles aussi à la chasse aux sextoys.
Évidemment.
Bien. Comment vous écrivez des marques du trou?
Ils ont pas mis de. C'était une internaute française.
Je propose peut-être qu'on enchaîne. Voilà. On passe peut-être au sujet.
Oui, hein. C'est mieux.
C'est pas notre plus grande fierté nationale.
17h26 sur France Inter. Salvatore Adamo est avec nous. On en profite. On va aborder ce premier sujet avec vous. C'est la caisse de grève des cheminots qui est alimentée par les Français qui se sentent solidaires du mouvement. La cagnotte atteint aujourd'hui 670 74 000 euros. Et les cheminots ont donc créé une association pour répartir équitablement l'argent entre les 4 syndicats. Ça permet aux grévistes de becter les jours de débrayage et d'essayer de compenser un petit peu la perte de salaire. Continuer jusqu'à 674 000 euros.
3 kilomètres à pied.
Boris Vian. Alors, le président Macron, lui, il répète qu'il ira jusqu'au bout de cette réforme de la SNCF dont vous avez sans doute entendu parler avec les manifestations du moins. Et là, on se rend compte que dans ce bras de fer, il y a des Français qui se disent « Allez, moi, pour que les cheminots puissent tenir dans ce bras de fer, je mets mon obol et je participe à la caisse de grève. » Alors qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ça et qui participent. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Salvatore Adamo? Est-ce qu'il y a le fils de mineur en vous qui se réveille sur ces sujets-là?
Oui, c'est une très belle solidarité parce que, en fait, des fois, on se trouve du côté que la grève arrange et des fois, du côté que la grève dérange. Donc, il faut être, compréhensif et imaginer qu'il y a des gens qui veulent que leurs conditions soient un minimum améliorées, quoi. Mmh. Mais par rapport aux acquis des cheminots, Si j'ai bien compris, il est question de les garder à ceux qui ont déjà le statut. Et on essaye donc de ne plus l'accorder systématiquement au nouveau. Mais on peut créer un programme progressif par rapport aux années de travail. Je suppose que c'est ce qu'ont fait ceux qui ont justement ces acquis.
L'idée, j'imagine, c'est que les luttes sociales ayant amené ça, ils ne voient pas pourquoi on leur enleverait ça. Et effectivement...
Oui, mais il y a des années de travail qui justifient sans doute certains avantages. Je pense qu'ils vont prendre...
Et une pénibilité aussi du métier. Voilà, Clara Dupont-Moineau ?
Oui, à la base, les caisses collectives comme ça, ce qui est amusant, c'est qu'elles avaient été créées pour que tout le monde mette la main dans la tirelire pour le pot de départ du collègue, pour l'anniversaire du copain. Et en fait, c'est en train de devenir un vrai, quasiment un instrument politique en fait. Il y a une fonction de la caisse collective qui est assez intéressante. Est-ce que vous voyez les choses comme ça, Salvatore Adamo ?
Mais la cagnotte, elle va être alimentée par qui exactement ? C'est pas forcément
les gens qui veulent. Vous pouvez donner chez vous si vous voulez. Si vous êtes pour les gens qui veulent. La défense du... Bah oui, Guillaume Meurice.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait d'abord une utilité un peu, entre guillemets, de loisir.
Les caisses de grève, ça existe depuis
oui, mais la cagnotte collective telle qu'elle est présentée sur Internet comme ça, à la base, tout ce qui est litchi, etc., ça avait ça qui est marrant.
Un crowdfunding.
Ouais. Et en fait, c'est en train de devenir quelque chose de finalement peut-être beaucoup plus presque offensif que le pot de départ à la retraite du collègue, quoi.
Mais c'est l'image même de la grève qui est en train de changer, j'ai l'impression. Et c'est vrai que dans nos régions, justement, de mines, l'image de la grève avait quelque chose de positif. Dans les villes, et aujourd'hui, quand on a des problèmes pour se déplacer, l'image est assez négative. Et donc, cette caisse-là, peut-être, permet justement de redonner une image plus de révolution.
Mais ne nous plaignons pas trop, parce qu'au Japon, du moins jusqu'à la dernière fois que j'y suis allé, il y a 6 ans, les ouvriers n'ont pas le droit de faire grève, ils ont le droit de porter un bandeau où il est écrit « en grève ».
Mais ils vont bosser, ils vont bosser quand même.
Je vous assure.
Ça, c'est un cocasse. Ah ouais.
Moi, je l'ai vu. J'avais pas pu lire l'idéogramme, mais j'avais demandé qu'est-ce qu'il a sur son bandeau. En grève. Mais il est au travail.
Ne le dites pas trop fort. Si le gouvernement nous écoute, Salvatore Adamo.
Non. Justement, c'est pour être prudent, quoi.
Vous vous rappelez si votre papa mineur avait fait grève? Vous rappelez de.
Ça a dû lui arriver.
Ça a dû lui arriver pas mal.
Bien sûr.
Salvatore Adamo, avec nous, qui sort un nouvel album qui s'appelle « Si vous saviez », 3 petits points, Mélanie Bauer.
Alors, un disque aux couleurs de France Inter, car vous ne le savez peut-être pas, Salvatore, mais nous nous sommes tous ici prêtés à l'exercice de la photo avec un accessoire rouge. Mais là où vous êtes très fort dans l'autodérision et la légèreté, c'est que vous avez posé pour le livret de votre disque avec des maracas rouges. Et j'invite les auditeurs à acheter votre CD plutôt que de le télécharger, rien que pour cette série de mouvements déjantés que vous inspirent ces deux énormes testicules. N'ayez pas peur. Il n'y aura pas d'autres moments vulgaires dans cette chronique. Je suis
gentille. Non, mais vous êtes charmante,
il
n'y a pas de vulgarité.
Et c'est bien là le propos de ce disque. Vous êtes le gentil de la chanson française, échappé des yéyés et de leur traduction de titres américains pour devenir celui qui savait dire « je t'aime » comme un Italien. Sauf que, si on se penche sur votre discographie, on s'est dit que vous n'étiez pas le gentil romantique à fleurs que tout le monde se plaît à aimer ou à mépriser. Par exemple, si l'on prend votre énorme tube « Tombe la neige » en 1964, qu'Alex pourrait nous chanter à tout moment.
« Tombe la neige ».
Eh bien, sur la face A de ce 45 tours, le deuxième titre s'appelle « J'ai raté le coche » et on ne peut pas dire que ce soit vraiment une chanson d'amour.
« J'ai raté le coche, c'est ça qui est moche. J'avais les poches pleines d'espoir, mais non, c'est moche, je vois tout noir. Mais ça gavroche sous toute sa gloire, t'es qu'un fantoche, t'es qu'une bonne poire.
Bon. On peut pas dire non plus que vous ayez raté le coche. Hein. Des millions d'albums vendus, une carrière internationale avec des chansons dans toutes les langues et avec cet air de ne pas y paraître, ce je ne sais quoi d'inoffensif, vous avez conquis le monde. Oui, car on ne se méfie pas des gentils. On peut sans peur leur confier nos économies ou pire, on leur fait confiance pour nos moitiés. Sauf que ces gentils romantiques en profitent et ni vu ni connu prennent une guitare et chantent tranquillement en duo avec votre femme. Juste un je t'aime.
Juste un je t'aime. Payez-vous ce cadeau.
ces mots suprêmes qui font voler si haut.
Je n'invente rien, Camille, en harmonie avec vous sur cette chanson du nouvel album, est bel et bien la femme de Clément Ducol, le co-réalisateur de votre album. Mmh. Oui, méfions-nous des gentils. Regardez Guillaume Meurice, un gentil révolté à l'idée que l'on mange des petits lapins et de gentilles poulettes. Eh bien, il fait passer tous les jours sur France Inter des messages révolutionnaires, comme le droit à la paresse et l'argent pour tous. Je le dis aux cyniques, aux branchés, aux machos de toutes sortes, sous la fleur bleue de Salvatore Adamo se cachent des racines siciliennes et l'humour sauvage du Belge nourri au second degré. On se croit avec lui en sécurité, avec ses mélodies et ses violons, mais à tout moment peuvent surgir les filles du bord de mer. Alors pourquoi je me permets de vous dire tout ça, Salvatore ? Ça ne me paraît pas très gentil, mais c'est tout simplement car vous le dites vous-même sur votre nouvel album, si vous saviez, vous créez le doute. Suis-je celui qu'on croit ? Eh bien, ce n'est pas sûr pour ma part. Je ne suis pas dupe de votre sourire charmeur de septuagénaire. Je sais qu'il y a plus d'un homme dans vos chansons et je propose d'ailleurs à nos auditeurs d'écouter cette confession.
Mais plus encore, ne le comprends-tu pas? Quelle drôle d'idée de vouloir vivre avec moi, alors que moi-même je n'y parviens pas. Tu me plais, mais est-ce bien nécessaire? Nous risquerions de tout fiche en l'air. Aimable, oui, mais j'ai mon caractère. Un rien parfois, et je pique ma colère. Méfie-toi, y a pas plus gentil que moi. On dit ça, mais suis celui qu'on croit. Méfie-toi de tous mes autres moi. Méfie-toi, je suis multiple, j'ai des disciples qui font des tas de choses pour moi dont je ne ça file entre les doigts, méfie-toi. C'est bien pour toi, mon amour, et juste parce que je t'aime, que je te tiens ce discours pour t'éviter les problèmes. Un jour tu ne sauras même plus sur quel pied tu vas danser. Vivre avec moi, comprends-tu? Mieux vaut ne pas y penser. Méfie-toi, y a pas plus gentil que moi. Méfie-toi. C'est pas la lune que tu demandes là. Crois-moi mon cœur, tu tomberais, dis-nous. Dans tous mes mois et dans tous leurs émois, t'aurais juste envie de me vendre au surplus. J'en ai brisé des cœurs bien malgré moi, avec des fleurs et toujours de bonne foi. Je jure, on ne peut plus sincère, mais à chaque fois un sort qui opère. Je crains très fort, mon amour, que nous serions à l'étroit. Je suis sûr qu'à longueur de jour, un de ces types qui vivent en moi viendrait te faire un discours sur ta façon de t'habiller, ou alors sur ton humour qui parfois me fait pleurer. Méfie-toi, y a pas plus gentil que moi. On dit ça, mais suis celui qu'on croit. Méfie-toi de tous mes autres moi. Méfie-toi, je suis multiple, j'ai des disciples qui font des tas de choses pour moi dont je ne réponds pas. Méfie-toi, les gentils salauds. Ça file entre les doigts, méfie-toi. Suis-je bien celui que tu crois? Méfie-toi, y a pas plus gentil que moi. On dit ça, mais suis-je celui qu'on croit? Méfie-toi, méfie-toi.
Méfie-toi. Et dites-moi, comment vous faites pour avoir la voix de plus en plus claire? J'ai l'impression qu'elle est, elle est moins cassée. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez travaillé dans l'ombre?
Non, j'ai beaucoup chanté.
Oui, bah ça je me doute.
Oui, mais non,
j'ai l'impression
que
sur ce disque, elle est très claire, votre voix.
Bah, c'était une période où j'étais en forme, sans doute.
Entraînez moins dans les boîtes de nuit avec la fumée, tout ça.
Ouais. Et je me suis plus mis les glaçons sur le front pour avoir la voix rouge. J'étais comme moi-même. Ouais.
C'est un extrait, merci Mélanie Boer, un extrait merci. De votre dernier
merci,
album. On a écouté Méfie-toi, il n'y a pas plus gentil que moi. Vous êtes plusieurs dans ce titre. Et il y a donc bien Salvatore et Adamo.
Voilà.
Ce sont deux, comme vous disiez tout à l'heure. Dans ce studio, extrait du dernier album, Si vous saviez. Et samedi, vous serez en concert à Coxyde. C'est en Belgique, mais c'est tout près de Dunkerque. Sachez-le.
Blankenberg, il y a.
Blankenberg, le 30 avril, ouais. La veille à Hasselt en Belgique. Mmh. Puis vous partez un peu au Chili. Et puis le 25 mai à Anvers et le 31 octobre, vous serez à Bruxelles. Salvatore Adamo, Clara Dupont-Mono va venir tout à l'heure. Alex est toujours là, bien sûr, oui. Il hyperventile.
Bouge pas.
Et Guillaume Meurice.
Oui, chronique spéciale pour les ploucs aujourd'hui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter de la cambrousse. On a eu les audiences, hein, les podcasts cartonnent. Qu'est-ce que ça va être quand vous aurez Internet, hein? Vous allez voir, ça va vous changer du 3615 France Inter. Parce qu'on le sait, évidemment, dans les campagnes, vous rêvez tous de venir habiter en région parisienne. Ça c'est normal, parce que c'est là où se situe le centre du monde, matérialisé par le nombril d'Alex Vizorek, hein, c'est sa maman qui me l'a dit. Et puis Paris, voilà, c'est le rêve, c'est l'histoire aussi, Paris, hein, c'est là où est née par exemple Clara Dupont-Mono, sous le règne de Louis V, dit le boutonneux, avec laquelle elle a eu une liaison avant d'enfanter Pierre Gattaz, mais vous connaissez tous l'histoire mieux que moi. Et en plus, Jean des campagnes, Macron est en train de vous laisser crever, hein, il vous savate la justice, il ferme les écoles, il baisse les dotations, et en plus il va faire le SAV chez Jean-Pierre Pernaut, donc le gars se fout littéralement de votre gueule. Hein, pour faire la promo du steak de cheval, il irait sur Equidia. Pour les économies sur les salaires dans le service public, il irait chez Nagui. Il s'en fout complètement. Alors venez, voilà, venez en région parisienne pour vous donner envie. Je suis allé ce matin au grand congrès des maires d'Île-de-France qui avait lieu à La Villette. Et pour vraiment vous donner envie de venir habiter chez nous, pourquoi pas par exemple Garges-lès-Gonesse. J'ai rencontré le maire.
Venez et vous verrez.
Ah d'accord.
Venez, vous verrez. Garges-lès-Gonesse, ça ne se discute pas, il faut voir. Et ceux qui viennent, en principe, nous demandent de rester.
Oui, notamment la police judiciaire, hein, qui vient régulièrement à la mairie dans le cadre d'une enquête sur les marchés publics illégaux, disent-ils, hein, parce qu'en réalité, c'est juste qu'ils aiment bien la ville. C'est juste à côté du Bourget et de Roissy. Et franchement, quoi de mieux qu'un peu de kérosène sur vos chocs-à-pique le matin? Alors, puisqu'on parle de Roissy, j'ai rencontré des gens de la collectivité d'un autre Roissy, Roissy-en-Brie. On a tous envie d'y aller.
Alors Roissy-en-Brie, c'est une collectivité bien placée, à côté de l'autoroute, avec plein d'atouts et un potentiel de développement énorme.
Ouais, mais là ça donne plutôt envie de crever là.
Non, il faut venir, vous viendrez nous voir à Roissy-en-Brie.
Non, vous me dites à côté de l'autoroute, ça me fait peur moi tout ça.
Non, c'est une super collectivité.
Voilà, faut aimer les autoroutes hein, essentiellement, hein, c'est vrai que bon, moi par exemple j'ai entendu pas mal de fois dans ma jeunesse mes parents dire « Est-ce que tu peux aller jouer au Lego sur l'autoroute ?» Hein, c'est vrai que pour un avortement tardif ça peut être utile. Alors puisqu'on parle de route, autre commune attractive, Villiers-sur-Marne.
Nous, notre commune, elle a cette particularité. On est à 25 minutes de Paris et 27 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle, 20 minutes d'Euro Disney également.
Donc l'intérêt de votre commune, c'est qu'on peut se barrer facilement, en fait.
Mais, écoutez, il y a 40% des ventes qui se font actuellement dans la ville sont des Parisiens.
Oui. D'où l'intérêt d'avoir des points de fuite, c'est important. Mais en même temps, si vous fuyez les Parisiens pour venir à Paris, c'est un peu con. Hein, c'est comme si vous fuyez les groupes de ska islandais pour arriver chez Mélanie Bauer. C'est pas une bonne opération. Une autre ville bien sympatoche qui permet de s'échapper, une ville qui est où?
Qui est à une trentaine de kilomètres de Paris, à peu près, hein, en moyenne.
Ça fait combien d'heures en embouteillage, ça?
Alors, ça dépend des jours. Au mois d'août, vous mettez 20 minutes pour aller à Porte de Bercy. Et en temps normal, il faut compter entre 45 et 1h30.
Ouais, c'est pas excessif. Ça vous fait 3 heures de trajet par jour aller-retour. Faut aimer la bagnole, hein. Mais bon, je sais que voilà, parmi nos auditeurs, il y a des dingues d'embouteillage hein, qui nous écoutent. Des gens qui connaissent par cœur le péage de Saint-Arnoux, le triangle de Rocancourt. Charline, je sais que vous adorez ça. Mais je sais, vous avez les vignettes Panini de ce genre d'endroit. Et alors d'ailleurs, on l'a pas dit, comment elle s'appelle cette ville?
Annette-sur-Marne,
dans Annette-sur-Marne.
Voilà, dans le, dans Seine-et-Marne.
C'est ah, mignon comme nom de ville.
Oui, c'est mignon, oui. C'est...
Qu'on pourrait imaginer un jumelage avec Gif-sur-Yvette.
Bonne question.
Non, parce que j'imaginais Annette-sur-Yvette.
Ça... Dans le cadre du mariage pour tous, c'est ça.
Oui, parce qu'il faut rigoler aussi. Oh, non, mais toi, c'est important, la région parisienne, c'est l'humour. Hein. Il y avait possibilité de jumelage avec Bourg-la-Reine. Ah, vous l'avez compris. Oui, ou avec Poil. J'en ai plein. Si vous avez d'autres idées, envoyez hein, d'ailleurs votre contribution sur le hashtag TexRevient. Ils sont devenus fous. Et puisque je sens que vous aimez la rigolade, j'ai rencontré également ce matin le maire de la commune de Houille. Oh. Eh oui, le fameux maire d'Houille, il était là. Alors, qu'est-ce qu'il pense de tous les jeux de mots bien sapatoches qu'on peut faire sur sa ville?
C'est mon lot quotidien, mais je suis quand même très fier d'être le maire d'une si belle ville. Ville sportive, ville de la corrida de Houille,
meilleur palmarès. La fameuse corrida de Houille.
Meilleur palmarès au monde des courses sur route. Et puis on a le départ de la dernière étape du Tour de France. Non, c'est une ville qui bouge.
Houille, le Tour de France part en Houille, on peut dire.
Oui.
Bon, ouais, moyennement validé, ça, je pressure. Alors, c'est pas facile de trouver, tout a déjà été fait sur Houille, hein, voilà. Et puis je vais vous dire, même le maire, il en a marre de tout ça.
Sur Houille, j'en ai tellement entendu, mais je me dis, tout le monde pense à Houille, mais il y a d'autres villes, il y a plutôt Aigarche. Ça a l'air de rien comme ça. Mais commencer un discours républicain en disant « fils de puteau, enfant de garche ».
Et alors ? On est pas mal là en termes de rigolade ou pas ? Laissez-nous le week-end, on monte un cabaret avec le maire d'Houille. Hein ? Ouais, évidemment. D'ailleurs, on prendra Macron. Il y a une petite expérience de la danse du ventre, hein, de la séduction, vu qu'il préfère passer sa vie en campagne plutôt que de leur venir en aide.
Merci Guillaume Meurice. À 17h44.
Breaking news. Ah. Sybille Veil, présidente de Radio France. Je sais, ça vient de l'annoncer.
Voilà.
Nous avons la nouvelle présidente.
Oh là là, fumée blanche. Voilà. Eh bien, nous la félicitons chaleureusement. Voilà.
Bonjour
Sybille,
bienvenue Sybille.
J'étais pour elle depuis le début.
Moi aussi, vraiment depuis Sybille. Moi j'étais là avant Sybille, vraiment on est très 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 heureux.
Ouais. Je pouvais pas la blairer, ma mère.
Félicitations. Bravo. Bienvenue. Voilà, 17h44 sur France Inter, cette magnifique antenne dirigée par l'exceptionnelle Sybille Veil.
Elle flamboie.
Et Salvatore Adamo est avec nous. On va parler de la nation de talent que connaît bien Sybille et qui s'étudie au Collège de France, parce que le talent, ça prend aussi de l'importance dans le monde du travail, le monde managérial, et le talent aussi, ça s'achète, ça se monnaie. Alors déjà, comment se rendre compte qu'on a du talent ?
Figure-toi, moi je vais faire quelque chose sans importance. Je vais prendre des vacances, toute seule, sans toi, qui me fais chier et merde.
Attends, Brigitte, calme-toi. Hein. En ce moment, tu es fatiguée. Alors tu vas monter, tu vas prendre deux cachets, tu vas te reposer, et puis on discutera tout ça quand tu seras calmée, plus hystérique, d'accord?
D'accord, dans 15 jours, si je reviens.
Gigi, merde! Si t'es pas capable de comprendre que j'ai énormément investi dans cette course. Et c'est quand même effarant de faire 20 secondes de plus qu'un entraînement.
Mais ce qui est effarant, c'est que tu sois même pas capable de réaliser que ton pote ait pu se tromper en te chronométrant. Alors ça te passe au-dessus du cigare, hein. Mais t'es pas capable de faire 35 secondes au slalom. T'es mauvais.
Et voilà, les bronzés font du ski. C'est à lire sur le site des Inrocs. Cet article, qu'est-ce que le talent? Il y a un sociologue qui s'appelle Pierre-Michel Menger qui en propose une analyse limpide. Et il a donné cours sur ce sujet pendant 2 ans au Collège de France. Il essaye de définir ce qu'est le talent. Et il dit notamment, il y a aussi une notion de compétitivité qui peut être un révélateur ou un moteur du talent. Et j'allais vous demander, Salvatore Adamo, vous rêviez aussi d'être footballeur, donc la compétition, ça vous titillait. Vous avez été découvert lors d'un radio-crochet où il a fallu être le meilleur quand vous aviez 16 ans. Est-ce que, alors d'abord, comment vous êtes rendu compte que vous aviez du talent? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit? Est-ce que vous sentiez une vibration? Comment ça s'est passé?
Mais là, justement, l'important, c'est est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a du talent? C'est déjà une grosse prétention au départ. Donc il faut sans doute avoir des gens autour de nous qui peut-être à un moment donné vous font remarquer que vous dessinez bien ou très bien. Et moi, dans les petites fêtes de famille organisées dans la cité où je vivais, j'étais plutôt en retrait parce que j'avais déjà la voix cassée. Et les enfants de mon âge, des autres Italiens, ils avaient des belles voix très claires. Et chaque fois, je faisais un flop, moi. Il a fallu peut-être que je commence à écrire mes textes pour un peu me sortir du lot.
Singulariser,
exactement, c'est le mot que je cherchais. Et la première fois que j'ai chanté en public, c'était sur la grande place de Jemappes. J'ai gagné 2 kilos de chocolat. Ça a été un premier encouragement, mais Étais-je déjà convaincu que j'avais du talent? Certainement pas. Il a fallu attendre 4 ans pour que j'aie une vraie confirmation avec un vrai concours où les copains de classe m'avaient encouragé à me présenter.
Un concours, donc, oui.
Oui.
Donc, d'où la compétition. Oui.
Mais la compétition, c'est pas forcément le fait de battre les autres qui est important. C'est de passer, tout simplement. C'est de reconnu.
Et de se comparer aussi, ou d'apprendre des autres.
Et voir si le petit don qu'on a correspond à ce qui fait qu'on peut devenir connu. Tout
mais Brel disait que le talent, c'était 90% de travail.
Absolument.
Est-ce que c'est aussi un talent de se rendre compte qu'il faut travailler?
Et comment?
Non, mais c'est vrai.
Il faut Gaston Lagaffe sort discernement de ce corps.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais là, par exemple, je suis en tournée, mais on vient de me dire, waouh, mais c'est pas possible, tu travailles sans prompteur et tout. Mais j'en deviens invivable à cause du fait de tous les jours, même entre les concerts, je me repasse tous mes textes dans la tête pour donner l'impression de facilité sur scène. Et voilà, heureusement que j'ai une épouse très compréhensive. Sinon, je pense que je dois énerver tout le monde dans la vie. Ouais.
Je vous renvoie donc à cet article sur lesaroc.fr qui explique notamment aussi que c'est la capacité d'agir dans un environnement plus incertain et de modifier les dispositions qu'on a, de les adapter aux besoins qui fait aussi, qui définit la notion de talent dont nous allons...
C'est ce que j'ai dit en quelques mots.
C'est vrai. Salvatore Adamo, bientôt au Collège de France sur ce sujet. Démonstration aussi avec Clara Dupont-Moneau, bien sûr.
Au bas mot. Oui, puisque l'actualité, Salvatore, c'est aussi ce printemps qui n'en finit pas de se faire attendre. Alors, je vous entends penser, une chronique sur la météo, mais c'est Dupont-Moneau qui a l'escroc. Vous avez tort, tous autant que vous êtes, car l'Occident a besoin d'herbe, Salvatore Adamo. Et oui, de vers, de prés, de nature.
On en a pris 5 tonnes il n'y a pas longtemps. Là.
C'est vrai. Mais on en a quand même toujours besoin de nature ressuscitée. Lisez Printemps, mes amis. Pensons Sibylle Veil. Mais ça, c'est autre chose. Non, ce besoin, la littérature l'a bien compris, elle qui comprend tout de nous. Et elle nous offre un petit essai merveilleux, érudit et très accessible, qui s'appelle La fraîcheur
c'est
de l'herbe.
C'est pour moi que vous dites ça.
Ouais, non, vous allez voir. Non, parce que c'est pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui adorent l'histoire et qui n'ont peut-être pas envie de se plonger dans un essai universitaire très pointu et qui découragerait les élans les plus ardents. Non, ça, c'est accessible à tout le
les
monde.
Les couillons, écoutez bien, c'est pour vous. Hein.
Mais pas du tout, Mais non, pas du tout. La fraîcheur de l'herbe, histoire d'une gamme d'émotions de l'Antiquité à nos jours. Et l'auteur Alain Corbin, peut-être que vous le connaissez, monsieur Adamo, mais c'est le seul historien qui a écrit une histoire du silence, une histoire de l'odorat ou alors une histoire de l'arbre. C'est-à-dire qu'il est parti du principe que l'histoire des sens avait autant de poids dans notre genèse que l'histoire des intellects. Et c'est pourquoi nous l'adorons. Et là, du coup, dans cet opus, il étudie l'herbe. Alors, vous l'avez très probablement remarqué, voire ressenti, dans nos environnements urbains, l'herbe, aujourd'hui, est devenue une notion rare, voire presque sacrée. Le citadin, lui, il veut sa forêt, il veut sa campagne. Ce sont devenus des valeurs refuges, souvent d'ailleurs un peu idéalisé. Eh bien, rien d'étonnant à cette nostalgie, dit Corbin, puisque l'herbe est, je cite, « incrustée dans la mémoire de l'homme ». Et en effet, c'est sa compagne la plus ancienne, probablement avec la pierre. Et elle est donc, dit Corbin, « porteuse d'origine ». Souvenez-vous de vos sensations, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de très enfantin à courir dans l'herbe, si possible pieds nus, et à s'y rouler. Et puis, depuis toujours, l'herbe soigne, ce sont les herbes médicinales. Elle peut accueillir comme un lit, la fameuse sieste dans l'herbe, qu'on, j'espère, vous avez tous fait. On peut aussi y mourir, dans les romans médiévaux, quand le chevalier est blessé, on le porte et on le pose sur un tas de joncs et d'herbes. Et donc, du berceau au tombeau, l'herbe est immémoriale. Et ce lien entre l'homme et l'herbe va même plus loin, nous dit Corbin, puisque l'homme lui donne des vertus morales. Alors ça, c'est la grande affaire des écrivains. Goethe disait que l'herbe était, je cite, une force endormie. Ronsard ou Jean Giono ont adoré sa résurrection à chaque printemps. Et d'ailleurs, en ancien français, on ne dit pas le printemps, on dit la reverdie. C'est-à-dire que l'herbe est associée à la persévérance. L'idée, c'est qu'elle pousse et elle croît, quoi qu'il arrive. C'est une sorte de nature indifférente au sort des hommes. Et cette sorte d'égoïste insouciance peut apaiser les esprits les plus mélancoliques, puisque mon chagrin sera toujours moins fort qu'une prairie qui renaît. En fait, c'est un peu ça. Et cette obstination à vivre lui vaut des ennemis à l'herbe. Par exemple, les paysans la détestent. C'est la fameuse mauvaise herbe. Mmh. C'est cette teigne qui pousse entre les pavés, dans les villes, éventuellement dans le cerveau de Guillaume Meurice. Elle est, la mauvaise herbe est moins jolie que les hautes herbes ou les herbes folles. Et le dictionnaire Becherel de 1860 qualifie même la mauvaise herbe de méchante herbe. Corbin ajoute, je cite, là aussi rien d'étonnant, cette détestation renvoie plus généralement à celle de la sauvagerie. Pourquoi ? Mais parce qu'on est très loin du tapis herbeux immaculé qu'il y a devant les châteaux, comme quoi l'herbe est aussi un marqueur social. Alors après, il y a eu tout un courant artistique à partir du XVIIe siècle qui s'est pris de passion pour la mauvaise herbe. Alors, c'était au XVIIe siècle, mais il y a eu le sommet, c'est Victor Hugo. Pour Victor Hugo, en gros, le sublime, il est en bas. Il est du côté des pas beaux, quoi. Et c'est dans les misérables, en bas de l'échelle sociale, que M. Madeleine dit « Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. » Je termine, et il le fait, par la puissance érotique de l'herbe, évidemment, l'expression « le gazon », je ne vous apprends rien, mais ça vient de là. Des romans libertins au « Déjeuner sur l'herbe » de Manet, l'herbe exacerbe le désir et fait de la fornication un acte militant écologique. En bref, comme l'écrit, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Guillaume Meurice. En bref, comme l'écrit Gustave Flaubert à sa compagne Louise Collet, on peut mettre un immense amour dans l'histoire d'un brin d'herbe. Dont acte avec ce livre, La fraîcheur de l'herbe de Alain Corbin est paru chez Fayard.
Merci, ouais, Clara Dupont-Mono. Ouais, ça donne très envie. Merci, Clara. Ce dernier sujet avec vous qui êtes fan de foot, Salvatore Adamo, c'est le héros italien à la longévité exceptionnelle qui ne gagnera jamais la Ligue des Champions. C'est Gianluigi Buffon, le gardien de la Juve, qui s'est fait sortir sur carton rouge hier soir contre le Real Madrid. Acte manqué, provoqué, tiens, demandons l'avis des supporters.
Au chef d'arbitre ! Au chef d'arbitre ! Va être habillé, enculé !
D'avoir perdu, c'est un sale coup pour le club.
Tu m'étonnes ! Pourri l'arbitre ! On va te faire payer, pauvre con, va !
C'est à cause de cette ordure.
Enculé ! Ordure !
Y a pas d'autre sortie, hein ! Dans les tribunes ! Et fais gaffe et va voir la gauche, je te dis ! On chante, l'arbitre !
À mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky. Alex, je vous laisse ce sujet.
Mais oui, je sais que vous aimez le foot. Alors d'abord, en tant qu'Italien, qu'est-ce que vous allez faire cet été ? Il y a la Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai. En 5 mois, Buffon a été écarté de la Coupe du Monde et de la Champions League.
Mais j'imagine que c'est le genre de joueur qui vous plaît parce que c'est quelqu'un qui donne envie, qui est un bon joueur, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que
il est charismatique.
Voilà.
Et hier, on a parlé de talent tout à l'heure. L'arbitre a joué sa partition implacablement, mais il a manqué d'un peu de talent et d'intuition parce que quand même, il devait savoir avant le match que pour Buffon, une élimination était sans doute synonyme de dernier match de sa vie, peut-être.
Est-ce que ça ne fait pas aussi l'histoire du foot, ces histoires-là ? C'est-à-dire que, paf, la carte rouge...
Oui, ces injustices rallument la flamme de ceux qui ont été lésés.
Si, les filles rigolent, mais j'imagine que vous avez une première image du gamin qui regarde le football. On en a tous une, c'était quoi la vôtre ?
Moi, c'est à Jemappes. Tenez-vous bien, en 1954, nous n'avions pas de télé chez nous, bien sûr, mais il y avait le marchand d'appareils électriques, Novita, je crois, et c'était le match Allemagne-Hongrie, où il y avait les fameux Puskas, Coxis, et devant l'étalage de cette boutique, il y avait un attroupement de gens qui levaient le cou pour voir un peu en noir et blanc le match qui s'est terminé par 7-4, je crois, pour la Hongrie, le match en qualification. Et la Hongrie a réussi à perdre en finale contre la même Allemagne, 3-1. Quelques semaines après.
C'est tous les hommes, on a une image de football.
Et voilà.
Je savais qu'on allait avoir une bonne réponse.
Et Gigi Buffon qui s'en va sur un carton rouge. C'est romanesque.
C'est dommage, c'est vraiment dommage.
Salvatore Adamo, vous avez fait un petit peu de cinéma. Alors on va revenir à votre métier de comédien, si vous voulez bien.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qui découvre.
Prenez vos lunettes, chaussez-les à l'aise.
Je vous ai donné un rôle de président, Salvatore Adamo.
Où sont les lunettes de Salvatore? Attention.
Attention, ça.
Est-ce qu'en régie,
3 dioptrées et demie.
Personne ne s'active. Oh. Hein, on ne sait pas...
Ah, voilà, les lunettes arrivent.
Ça me laisse le temps d'expliquer le sketch, parce qu'évidemment, c'est l'info du jour. Macron qui se fait interviewer par Jean-Pierre Pernaut. Comment ça s'est passé? Vous êtes le président Macron. Oh. Salvatore Adamo. Guillaume Meurice est votre conseiller. Je vais faire Jean-Pierre Pernaut. Et Charline est la petite élève dans la classe de primaire.
Allez, président, faut y aller là, vous avez école. Hein.
Tu vas faire quoi dans ma classe?
Oh, pas grand chose, juste raconter des carabistouilles.
Attendez, président, ne dévoilez pas tout de suite vos éléments de langage. Hein.
Ouais. Vous avez raison, rappelez-moi où on va.
Au JT de Jean-Pierre Pernaut.
Bah, il faudra que je donne mon avis sur les producteurs de chabichou cendré.
Non, on sera en direct d'un village normand.
Ah, ça sent le reportage sur les artisans du camembert moulé à la louche.
Tu trouves que le camembert ça pue?
Ah, je n'ai pas dit ça.
Tu trouves que le camembert, c'est un fromage pour les ploucs?
Conseiller, rassurez-moi, les questions de Jean-Pierre Pernaut seront plus agréables, n'est-ce pas?
Vous n'avez rien à craindre, ce sera une interview sans journaliste. Hein.
Monsieur le Président, vous avez bien reçu mes questions?
T'es qui, toi?
Jean-Pierre Pernaut.
Ça veut dire que t'es alcoolique? Tu connais Jean-Vincent Placé? Oh.
Monsieur Pernaut présente le JT le plus regardé d'Europe.
Non! Oh, j'ai envie de faire pipi!
Non, ça c'est dans le sketch de mardi.
Ah, pardon.
Bon, alors, reprenons. Monsieur Pernaut, nous avons bien reçu vos questions, donc...
Elles sont excellentes.
Merci, monsieur le Président. C'est Bruno Roger Petit qui les a écrites.
Ça, alors, depuis qu'il ne fait plus journalisme, Bruno Roger est devenu un excellent journaliste.
Ah ben, on le paye assez cher pour ça, d'ailleurs.
Mais j'imagine qu'il y a une ou deux questions embarrassantes. Quand
bien
même.
Sûr, et celle-là, je vais les poser aux cheminots privilégiés qui bloquent le pays en ce moment.
Mon papa, il est cheminot.
Ah, attends, elle devait pas faire pipi, celle-là?
Non, ça, c'était dans le sketch de mardi. Ah.
Écoute, sois gentil, va plutôt réviser tes leçons pour monter ta start-up, hein, quand tu seras grande.
Il a raison. Hein, ici, on parle entre adultes.
Dites, c'est normal si ça me gratte?
Ah, c'est le monde rural, hein, monsieur le président.
Non, je crois que c'est depuis que je suis rentré dans cette classe.
Il y a des poux.
Je ne comprends pas pourquoi une interview dans une école primaire.
Ça vous plaît pas?
Ben, c'est pas un peu bizarre quand on veut s'adresser à des retraités?
Ah, et dimanche, oui, j'ai oublié de vous dire, on va chez Mediapart pour s'adresser aux gens de droite.
C'est tellement disruptif. J'adore.
Merci beaucoup, Salvatore Adamo, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un ravissement. Je rappelle, votre dernier album s'intitule « Si vous saviez, trois petits points ». Vous êtes samedi à Coxyde, c'est près de Dunkerque. Vous êtes en tournée, notamment en Belgique, le 31 octobre. Vous serez à Bruxelles. Merci, Salvatore.
Merci beaucoup.
Allez. Merci à vous. Merci.